Pierre-Grégoire Bellu, bonjour.
Bonjour, bonjour chers auditeurs, auditrices, chers amis de Radio Maria. Nous nous retrouvons après un temps de latence et de jachère où nous avons fêté l'année dernière. Enfin, nous avons célébré le mois dernier l'entrée au ciel du pape Benoît XVI et nous nous retrouvons sur cette éthique familiale et cette redécouverte de la joie intérieure. Alors, cette redécouverte, pourquoi on parle de joie intérieure? Parce que avant d'être quelque chose qui s'exprime, elle est d'abord quelque chose qui se vit. Et dans cette redécouverte de cette vie, c'est accepter la relation à l'autre comme un lieu de redécouverte, de réenchantement. Alors pourquoi on parle de réenchantement? Parce qu'en fait, il y a quelque chose de nouveau dans ma relation d'époux, d'épouse, dans ma relation avec mes enfants. C'est toujours une redécouverte ensemble d'une autre dimension que les tensions ou en tout cas les cailloux sur le chemin ont empêché de voir. Et en fait, on s'aperçoit que en changeant de vision, changeant cette vision, c'est-à-dire en regardant le Christ et en regardant le frère comme une image de Dieu et une personne à aimer, nous redécouvrons l'ensemble. Et c'est important dans la dimension de cette joie que nous avons à vivre en tant que disciples et qui nous transforme. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de vivre la joie, il s'agit de se laisser transformer par cette joie et de vouloir la rendre plus dynamique dans l'amour. Et dans les difficultés que nous pouvons rencontrer, et même parfois les ruptures, il y a toujours une joie à retrouver. Et cette joie, vous voyez, quand on quitte l'Égypte, on se dit, mais les oignons d'Égypte, ils étaient quand même pas mal. Mais nous sommes invités à une terre promise, à une autre terre promise. Alors, effectivement, le passage du désert n'est pas toujours agréable, c'est clair, il faut être clair, mais le passage du désert, c'est de nous déposséder de ce que nous avions pour enfin de ce que nous avions et qui nous empêchait d'être en fait véritablement homme, véritablement femme, pour redécouvrir notre dignité propre d'enfant de Dieu. La joie du baptême, elle est là. C'est les nouveaux catéchumènes, c'est cette joie de redécouvrir le Christ qui transforment toute leur existence parce que, eh ben, on n'est plus dans la culture familiale, on n'est plus dans quelquefois dans des pratiques ésotériques, on est dans cette découverte d'une liberté que Dieu nous donne. Et cette liberté, elle me permet de vivre les choses autrement et de redécouvrir cette grâce de vivre les choses autrement, cette grâce du témoignage, par exemple. Et ça nous concerne, nous aussi. Dans la famille, parce que nous avons à aider les uns et les autres à découvrir cette joie intérieure. Et cette joie intérieure, on peut l'avoir, cette expérience de la joie, c'est un appel à suivre le Seigneur. Et cet appel à suivre le Seigneur, c'est dans le couple Beltrame Quattrocchi, vous voyez, Madame essayait de faire prier un peu plus monsieur, sinon que Luigi priait beaucoup, mais sa femme l'a poussé à aller plus loin dans cette conversion du cœur. Il y a toujours comment attirer l'autre vers un meilleur bien, mais pas simplement vers un meilleur bien, c'est-à-dire une manière de bien agir, vers ce meilleur bien spirituel, c'est de rechercher cette ferveur avec Dieu, ce dialogue avec Dieu, car dans ce dialogue avec Dieu, tout prend sens dans ma vie active. Dans ce dialogue avec Dieu, je peux me laisser saisir par la parole et rayonner dans mes actes. Il y a effectivement quelque chose de la foi dans ma manière de vivre concrètement mon expérience relationnelle avec l'autre et cette transformation de tout mon être. J'insiste sur le terme de transformation parce que vous pouvez avoir une outre de vin où vous avez du vin de bonne qualité. Mais si l'outre de vin a un double fond avec du vinaigre, eh bien, votre vin, vous pouvez boire du vin de bonne qualité au début, qui vous semble de bonne qualité, puis vite, vous allez voir que votre vin a quelque chose de pas normal, de périmé, et qui va gâcher tout l'ensemble. Ça veut dire que ce n'est pas l'apparence, mais tout l'être qui compte. La transformation dans la foi, c'est se laisser saisir par le Seigneur. Et c'est se laisser saisir de tout ce que je suis, et non pas dans le paraître. J'insiste là-dessus parce qu'il y a quand même quelque chose fondamental dans la vie spirituelle. Et la vie spirituelle, elle se fait dans la vérité de mes actes, mais la vérité de ce que je suis. Non pas de ce que veut entendre l'autre ou de ce que je veux entendre moi-même, mais de ce que je fais, ce que je suis et ce que je veux au plus profond de moi-même. Eh bien ça, une mère, un père l'enseigne à son enfant. C'est la tâche de l'autonomie, elle est là. Redécouvrir ce qui fait vraiment sens en toi. Et redécouvrir ce qui fait sens en toi, elle se fait dans l'exemplarité. C'est-à-dire que si papa et maman lisent beaucoup, un enfant, a priori, lira beaucoup. Si les parents sont avachis devant la télévision, a priori, l'enfant sera avachi devant la télévision. Ensuite, cela demande aussi des orientations sur l'éducation et notamment sur ce qu'il faut c'est ce qu'il faut protéger le jeune des facilités. Un exemple concret, je dis, si les parents lisent, les enfants liront, c'est vrai. Sinon que si vous donnez un livre ou un jeu informatique ou tout autre PlayStation dans la main de l'enfant, il aura tendance à choisir la facilité. Or là, il y a bien une double injonction. La première injonction, elle est d'éviter de faire le mal. Et donc, d'éviter de faire le mal, c'est d'éviter de ne pas donner à un enfant des PlayStation ou autre jeu pour l'éduquer à la lecture. La deuxième injonction, c'est de permettre à l'enfant de trouver une liberté intérieure. C'est-à-dire que l'interdiction parentale n'est plus une interdiction parentale, mais l'enfant comprend que jouer, ça peut abrutir largement et que lire permet de s'épanouir dans d'autres horizons qui permettent le développement d'une certaine forme d'autonomie et de créativité, d'imagination. Or, pour cela, il faut une certaine maturité. On ne passera pas sur l'éducation des enfants, on ne passera pas sans interdit. Il faut bien interdire. Je disais récemment qu'une famille a décidé de ne rien interdire à l'enfant, et donc il était libre de faire tout ce qu'il voulait. Moyennant quoi, ce que disait l'article, c'est que l'enfant était assez imbuvable. Et alors l'article dit, mais il s'en est sorti en faisant des activités, certes, et en trouvant un travail, certes, mais il y a quand même quelque chose de pas juste dans ces histoires-là. Il nous faut la joie intérieure, c'est d'avancer avec une certaine appréhension de ce qui peut me rendre heureux et de ce qui peut m'atteindre. C'est-à-dire que pour discerner, voyez-vous, il nous faut discerner en vérité. Ce discernement en vérité demande pour chacun d'entre nous d'être vigilant à ce qui est premier dans ma vie. Et ce qui est premier dans ma vie me demande en même temps cette certitude que, eh bien, j'ai des repères. Et la loi l'interdit d'un de ses repères. Et ses repères sont source de joie. Parce qu'il y a bien quelque chose de, ben c'est la loi, mais en même temps, je sens bien qu'elle me structure. Alors, on est d'accord, il y a la perversité de la loi. la perversité de la loi, c'est de faire des repères à l'absolu et donc d'empêcher toute forme de prise d'autonomie, justement, du jeune ou toute prise d'autonomie de l'autre dans le couple. Il faut dans le couple aussi, on a quelques repères. Je parle pour les enfants, mais ces repères, elles se font dans le couple. Peut-être que dans le couple, eh ben, on passera un peu plus de temps ensemble et un petit peu moins avec les amis, parce qu'au début, il faudra construire le couple. Peut-être que l'un sera moins casanier parce que l'autre voudra sortir un peu plus et qu'il faudra être à l'écoute de sortir un peu plus, mais l'autre devra trouver les bons moments pour sortir, ne pas sortir en toute occasion comme un échappatoire extérieur de ce que j'ai à vivre à l'intérieur de mon couple. Et tout ça, ça demande beaucoup de nuances et beaucoup de prudence dans la manière de faire. Mais en même temps, c'est qu'est-ce qu'on se donne comme lieu de ressourcement intérieur. Voyez-vous, au séminaire, mais c'est vrai encore dans la vie de prêtre, c'est, il nous faut une soirée dans la semaine. L'évêque nous demandait une soirée pendant la semaine où nous sommes avec nous-mêmes et où nous atterrissons. Hein? Il y a quelque chose de vrai là-dessus, parce que comme vous avez 7 jours de réunion tous les soirs, même le dimanche soir quelquefois, il y a quelque chose de pas très juste dans ces histoires-là. Faut être prudent sur comment je vis cette intériorité. Et ce qui est vrai pour un célibataire, elle est vraie aussi pour un couple. C'est-à-dire dans un couple, il y a un jour dans la semaine où on peut se dire, ben, ce jour-là, il est pour notre couple, il est pour notre famille. J'ai décidé d'un jour, mais le mercredi soir, il est pour nous et rien que pour nous. Eh bien, en se disant ça et en figeant un petit peu ça, on se donne une certaine forme de liberté parce que du coup, les autres soirs, peut-être qu'on peut faire des choses et en même temps, on sait que ce soir-là, c'est le soir du repos, c'est le soir du retrouvailles. Et les jeunes attendent aussi qu'on leur dise un moment, ben non, tu peux pas sortir avec tes copains ou tes copines mercredi soir parce qu'on a dit qu'on était en famille, c'est valable et pour nous et pour toi. Et il y a ce repère de l'ensemble. Alors, ce repère de l'ensemble, vous voyez, c'est là où je dis, elle nous structure en même temps, elle demande beaucoup de prudence. Évidemment, sur une occasion dans l'année où il y a quelque chose de vraiment spécifique sur ce mercredi-là, effectivement, l'enfant ou le couple pourra décider de vivre l'injonction d'une autre manière. En même temps, la loi nous structure. Et en même temps, elle doit permettre cette joie de Dieu, elle doit me permettre une certaine fécondité, une certaine autonomie. Le problème des pharisiens et ce que reproche le Christ aux pharisiens, c'est d'être sclérosé dans la loi. Il y a la loi, il n'y a rien d'autre. Or, le Christ dit, ben non, il y a la loi, il y a l'amour. Et l'amour demande la vérité, toujours. Mais cette vérité de l'amour rend la loi non pas secondaire, mais seconde. C'est-à-dire qu'elle rend la loi toujours sous cet aspect de direction, sans être forcément une obligation. Et c'est pour ça que ça demande beaucoup de prudence, parce que à partir de quand je dis je peux déroger à la loi. Exemple. Je râle souvent quand je vois des paroissiens acheter le dimanche. Et ils disent, parce qu'il y a le marché à côté de l'église et tout le monde va à l'église puis au marché. Et je dis à chaque fois, c'est pas normal. Ceci étant dit, c'est ce que j'ai raconté, j'ai été chercher des jeunes parce que les parents pouvaient pas aller les chercher, donc j'ai été les prendre à leur sortie de train pour les ramener à la maison. Et évidemment, je me suis arrêté, il était midi, ils n'avaient pas bien mangé le matin, je me suis arrêté à un McDo pour qu'ils puissent manger un petit truc avant de retourner à la maison, parce que les parents arrivaient le soir. Évidemment, et ça m'arrive quoi, une fois tous les 3-4 ans. Vous voyez, entre la rigidité du dimanche et en même temps faire ses courses tous les dimanches, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là où la loi doit me permettre un certain dynamisme créatif. Elle doit me permettre de grandir et de gagner en autonomie, de gagner en autonomie dans cette relation à l'autre. C'est dans notre vocation originelle, le bonheur est une vocation humaine qui passe toujours par les sentiers de la connaissance et de l'amour, de la contemplation et de l'action. C'est la joie, c'est en même temps ce temps d'émerveillement de la présence de Dieu dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, et cette volonté de vivre cette beauté de l'amour de Dieu en contribuant selon mes propres moyens à son œuvre. Et notamment, comme je le disais tout à l'heure, par l'exemplarité de vie, par ce témoignage de vie. Et la nouvelle alliance vit dans l'amour. Elle répond au principe de réalité pour nous signifier un autre chemin de compréhension, une autre histoire, celle de la sainteté en accomplissant la volonté de Dieu. L'appel à la joie est un appel à suivre le Seigneur. Le problème, c'est de faire un impératif de la joie. Soyez joyeux. Toutes les circonstances ne me donnent pas forcément une joie pleine et entière. Quand je vis en un deuil, eh ben, je ne suis pas forcément dans la joie. Ça, il faut être clair aussi. Le principe de réalité doit être toujours premier dans notre expression de joie. Mais en même temps, je dois trouver cette joie intérieure, cette joie qui me donne de vivre non pas dans l'esprit du monde, mais l'esprit des enfants de lumière. Et c'est là où il y a quand même quelque chose de la transformation avec Dieu. Et cette transformation, elle se fait dans cette liberté que j'acquiers à travers la prière et l'aspect prophétique de ce que je fais. C'est d'ailleurs toute l'orientation des béatitudes que nous avons entendues dimanche. L'orientation des béatitudes, elle est un rappel de la loi de Moïse. On fait un parallèle entre Jésus et Moïse à ce discours, parce qu'il y a plusieurs situations qui font plusieurs paroles, plusieurs attitudes qui montrent que le discours au sommet des montagnes ou le discours sur le 10 commandements qui vient du mont Tabor sont toujours du mont Sinaï, excusez-moi, sont toujours des discours qui disent la loi de Dieu. Mais en même temps, les béatitudes ont une dimension prophétique. Et cette dimension prophétique, elle est dans la manière d'aborder la joie sous l'aspect non pas de ce monde, mais de notre vocation propre, qui est les fins dernières, qui est la grande espérance du salut. Nous sommes invités à rencontrer le Christ et à le rencontrer et à désirer cette rencontre avec lui. Mais cette rencontre avec lui nous met dans une plus grande joie. Alors, effectivement, l'appel des béatitudes et cette méditation de la joie en Dieu, l'homme veut le bonheur qu'il appelle vie, paix, joie, repos, bénédiction et salut. Dieu veut le bonheur de l'homme dans la vérité de ses choix et la liberté d'opérer une décision mûrement réfléchie. Et cette décision mûrement réfléchie en couple ou avec les enfants, nous devons sans cesse la mettre devant nous. Le discernement prudentiel, il est là, dans une décision de ce que nous avons à faire et dans la responsabilité de nos actes. C'est exactement ce qui s'est passé pour les moines de Tibrine. Il y a un moment où les moines ont dû réfléchir personnellement à ce qu'ils allaient faire. Faut-il rester ou faut-il partir? Et leur abbé général leur disait, des martyrs, on en a déjà plein dans l'Église, des frères, nous en manquons, revenez, on n'a pas besoin de martyrs. Et il y a quelque chose de très vrai dans ce que disait le frère, le père abbé général. Il faut aussi prendre les réalités. Mais cette réalité, les frères de Tibrine, avec leurs responsables, ils l'ont réfléchi aussi, c'est si nous partons, qui reste avec ces gens-là? Et notre témoignage de vie ne doit-il pas être d'être toujours avec ces gens-là jusqu'à vivre le martyr, mais ce n'est pas ce que nous recherchons. Et ça, c'est très vrai. C'est dans les choix de vie, il y a bien un moment où je veux vivre avec les autres, mais il y a bien un moment où j'accepte la séparation avec les autres. Et ça, c'est important pour que les parents le montrent à ses enfants. Non, tu ne dois pas être comme, tu dois pas faire comme tout le monde. Il y a un moment où tu dois dire non, parce que tu ne peux pas le faire. Et non parce qu'on te l'interdit, mais parce que tu sens bien qu'intérieurement, il y a quelque chose de pas juste, il y a quelque chose de pas vrai dans cette histoire-là. Et ça, c'est une des questions de tout moment, parce que effectivement, nous avons à vivre dans la simplicité. Et cette simplicité du cœur, elle est de rappeler que chaque chose doit trouver son espace dans le temps. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce que je demande? Ou est-ce que c'est un besoin superficiel? Or, quelquefois, on a des pulsions intérieures où je veux vraiment ce super cahier, tout ça, parce qu'il est vraiment très beau, et je dois dire à mon enfant, ben non, t'as besoin d'un cahier pour écrire, t'as pas besoin du dernier cahier avec des logos, des marques ou des firmes ou de publicités. Peut-être que nous, tu diras avec les autres, une certaine forme de simplicité. Et ce qui est vrai, enfin, je prends le cahier parce que on pourrait partir par les vêtements et autres, porter des vêtements de marque ou autre, il y a un moment où il faut dire aux enfants, ben non, on n'est pas obligé de porter des vêtements de marque. Et les vêtements de marque ne sont pas non plus forcément signe de qualité absolue. Et puis, il faut réfléchir sur ce que nous sommes invités à vivre. Vous voyez, est-ce que je dois acheter une paire de chaussures à assez bas prix, mais je la change tous les ans, ou je dois prendre une paire de chaussures très chères, mais de toute manière, elle durera un peu plus longtemps, mais entre payer 300 euros ou 400 euros ma paire de chaussures qui dure, allez, 2 ans et demi à peine, et payer une paire de chaussures 70 euros, j'ai 5 ans de nouvelles paires à chaque fois. Il y a quelque chose, vous voyez, où il faut toujours rechercher, mais qu'est-ce qu'il me faut vraiment pour moi aujourd'hui? Et expérimenter cette simplicité. Est-ce que je dois forcément aller au cinéma, voir le dernier film sorti, ou attendre tranquillement que les choses se passent et que suivant les conseils des uns et des autres, j'aille voir ce qui me paraît le plus pertinent. Est-ce que je dois forcément être dans une recherche d'excellence ou je dois être dans une recherche de bien-être intérieur? Mais il y a quelque chose de fondamental là-dessus aussi, parce que on n'a pas à mettre de la pression pour les enfants. Alors pour les études, en général, dans les familles, c'est assez bien compris. Tout le monde sait bien qu'il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Ça, c'est accepté. Mais quand on voit le comportement de certains parents au foot sur leur enfant, ou dans le sport en général d'ailleurs, où il doit forcément écraser les autres pour gagner parce que c'est lui le meilleur, il y a quelque chose de pas juste. Et c'est intéressant dans le sport parce qu'en fait, on laisse émerger nos désirs fondamentaux. Dans le jeu, on peut exprimer d'autres choses. Vous voyez, dans les études, on a bien conscience qu'il faut être prudent, même si quelquefois il faut pousser l'enfant à se dépasser. Quand on voit un enfant qui ne fait pas le meilleur, qui donne pas le meilleur de lui-même, c'est vrai que ça peut agacer un peu les parents. Il peut mettre un peu de pression en disant, ben, c'est pas sérieux, tu peux mieux, faire mieux que ça. Faut arrêter de jouer à autre chose et faut peut-être essayer de vivre les choses. Et en même temps, et c'est bien ça la difficulté, c'est de permettre à l'enfant de découvrir par lui-même qu'il peut arriver à d'autres résultats. Et c'est toujours dans cette vivre ce qui est premier et ce qui me permet de grandir. je raconte toujours, mais quelqu'un qui a eu le bac et qui veut faire auxiliaire puéricultrice. On lui a dit, mais non, c'est pas sérieux. Deviens carrément puéricultrice, et puis ensuite, si tu veux être auxiliaire puéricultrice, il n'y a pas de problème. Donc, elle s'est inscrite en école d'infirmière, et puis pour finir, elle est très contente de son école d'infirmière. Mais heureusement qu'on l'a poussée vers le haut et qu'on n'a pas dit, bah oui, ma fille, bah, tu vas être auxiliaire puéricultrice, tu as ton diplôme, et puis voilà, en 6 mois, tu l'auras et tu vas travailler. C'est pas sérieux. C'est quand. C'est pas sérieux, ça ne permet pas à la personne de rebondir, parce que faire des études ensuite. Alors, je suis mal placé pour le dire parce que mes 3 masters, je les ai faits après, mais dans ma vie professionnelle. Donc, c'est vrai que je suis peut-être pas mieux placé pour le dire, mais c'est pour dire qu'il y a un moment où, tant qu'on peut faire les études et tant qu'on peut faire les choses, ben, c'est mieux parce qu'ensuite, pour progresser, on part de diplômes acquis et ça ne ferme pas les portes. Alors, j'entends bien qu'il ne faut pas être dans l'absurde non plus. Je me souviens toujours de Jean-Marie, oui, c'est Jean-Marie Petitclerc, le père Jean-Marie Petitclerc, qui a dit à son père, je veux être prêtre. Et le père lui dit, non, non, mais il faut que tu fasses des choses sérieuses. Donc Jean-Marie Petitclerc a fait Polytechnique. Et une fois qu'il a obtenu Polytechnique, son diplôme, il a dit, bon, ben, maintenant, je veux rentrer au séminaire. Et là, papa lui dit, bon, tu veux gâcher ton temps, tu fais ce que tu veux. Et bon, là, on est dans la caricature. J'entends bien qu'on est dans la caricature. Et en même temps, le père a raison. Il faut faire des études, il faut que tu aies quelque chose de telle sorte que ta vocation ne soit plus une question de bah, je ne peux pas faire autre chose parce que je me suis engagé là-dessus. Ah, toujours avec cette prudence, vous voyez. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, on demande après le bac que certains fassent des études. Peut-on rentrer au séminaire après le bac? Alors, je dis, ben, quelquefois, c'est peut-être bien qu'on rentre au séminaire après le bac. Faut pas non plus toujours orienter sur. Parce que le séminaire offre une vie spirituelle. Mais vous voyez, c'est toujours qu'est-ce qui est le mieux pour le jeune et qu'est-ce qui lui permet de grandir. Et ce qui est vrai pour le jeune, il est vrai pour le conjoint ou la conjointe. C'est comment je peux aider mon conjoint ou ma conjointe à se réaliser le mieux dans cette vie que nous avons à vivre à deux et qu'il ne soit pas dans je donne des dîners tous les soirs où je rassemble plein de monde parce que je veux que la maison, notre maison soit une plaque tournante de la culture parisienne, lyonnaise, marseillaise, etc. etc. C'est toujours ben, comment ensemble on crée ce dynamisme de de vivre ce temps. Avec l'autre, dans cette joie du parcours, de la sainteté et de notre appel propre à accomplir cette volonté de Dieu. Vanité de ne penser qu'à la vie présente et de ne pas prévoir ce qui la suivra. Vanité de s'attacher à ce qui passe si vite et ne pas se hâter vers la joie qui ne finit point. Nous dit l'imitation de Jésus-Christ. Il y a effectivement une certaine vanité à vivre notre vie chrétienne en programme électoral et qui devient des promesses creuses et sans lendemain. Or, dans l'invitation à la joie que nous avons à vivre, il nous faut sans cesse nous enfoncer dans cette jubilation intérieure, dans cette jubilation de la relation à l'autre. Si dès maintenant nous ressentons dans nos cœurs douceur, jubilation et bien-être, que dire alors de la joie qui nous est réservée dans le ciel? À nous qui pleurons ici-bas. Agir pour l'autre, agir avec l'autre, c'est agir avec Dieu et entendre Dieu agir en moi. Il y a toujours cette réciprocité du don qui m'invite à vivre la joie comme un lieu de libération intérieure et de vérité. La joie, et je termine. Voilà, la joie est pratique d'une vie pleine de confiance en Dieu. C'est un chemin de progression où peu à peu se dévoile sa présence aimante et l'adhésion de notre cœur à vouloir le suivre jusqu'au bout. Pas de joie sans croix. Et je le répète, pas de joie sans croix. Oui, la croix fait partie de la joie. Alors, on va me dire, c'est un peu difficile à comprendre, mais pas tant que ça. C'est la croix, elle est un lieu aussi de récapitulation de notre joie pour aller plus loin. Et elle est moins exubérante, on en entend bien. Le Christ en croix n'était pas vraiment dans la joie, c'est une réalité, c'est une vérité. Et en même temps, le Christ en croix nous invite à la joie pascale. Et cette joie pascale, ce n'est pas semblant, elle est une vraie joie pascale. C'est-à-dire que dans cette joie, j'ai à vivre des étapes. Et la croix est une étape, et c'est une étape que nous voudrions tous éviter, mais qui, nous le savons, dans notre foi, est nécessaire pour aller plus loin. Apprenez à mépriser les choses extérieures et à vous donner aux intérieurs, et vous verrez le royaume de Dieu venir en vous. Cette promesse de simplicité, c'est ce royaume de Dieu qui est paix et joie dans l'Esprit Saint. Prions les uns pour les autres et sachons les uns les autres toujours vivre en famille cette invitation à demeurer fidèle à la parole et à nous saisir de la présence de l'Esprit pour avancer avec confiance et annoncer cette joie de l'amour autour de nous dans l'attente des derniers jours.
Père Corpélu, je suis en train de penser à un exemple d'une personne que je connais qui a changé d'orientation. Vous parliez des études, donc c'est une jeune fille qui a été amenée à changer d'orientation. Elle rêvait de faire certaines études, donc elle avait été acceptée dans une école. Et ça ne s'est pas bien passé, elle s'est rendue compte que ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle a vécu quelques mois difficiles et finalement elle a changé complètement d'orientation. Et maintenant elle s'épanouit vraiment dans les études qu'elle est en train de faire. Donc est-ce que ce n'est pas finalement un peu l'illustration de ce que vous disiez, donc cette joie qui passe par la croix, elle-même elle a trouvé la joie dans les études en passant par la croix d'une erreur d'orientation.
Ah, si, absolument. Et puis, les croix peuvent faire découvrir d'autres choses merveilleuses. Je vais vous prendre un autre exemple. J'ai une religieuse qui travaillait, c'était en Afrique, quand j'étais en Afrique, elle travaillait pour une société minière. Et du jour au lendemain, la société minière a mis fin à son contrat de jardin d'enfants. Et du coup, elle s'est retrouvée sans financement et elle a monté son jardin d'enfants privé. Moyennant quoi, son jardin d'enfants privé n'a pas des amplis, bien au contraire, et elle s'est libérée du joug de la société. Mais elle a tout gagné là-dedans. Mais je peux vous dire, parce que moi j'étais là à l'accompagner pendant le passage, ça a été douloureux, hein. C'est comment je vais faire, comment on va faire, les gens ne vont jamais payer, ça va être problématique et tout ça et tout ça. Et bien, elle s'en sort très bien. 20 ans après, elle s'en sort toujours, 30 ans après, elle s'en sort toujours bien. Comme quoi, vous voyez, c'est ce que je disais à son autre sœur que je rencontrais, je disais, comme quoi il y a des croix, au moment où elle le vivait, c'était pas drôle, mais ensuite, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, elle est libre. Elle a pu, et votre connaissance, c'est ça aussi. Elle a changé d'orientation et là, elle a redécouvert une liberté. Mais en quittant son école et en recherchant autre chose, il y a eu quand même un sacré temps de latence, une sacrée hésitation en disant « Mais est-ce que j'ai eu raison ? On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, etc. » Il y a toujours quelque chose de l'incertitude. Ça c'est vrai aussi. Je crois que c'est important qu'on entende, et ça pour les enfants aussi, c'est quelquefois on se dit mais dans quoi ils s'embarquent, et puis on s'aperçoit que l'enfant est heureux, mais tant mieux, alléluia, si ça le fait grandir, si ça le fait mûrir, on a tout gagné dans l'affaire, enfin il me semble.
Oui, c'est vrai qu'on peut avoir, donc vous preniez également l'exemple du monde du travail, c'est vrai qu'on peut parfois se poser cette question, on change d'emploi, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Et effectivement, on sait l'emploi qu'on quitte, on ne sait pas si celui qu'on a trouvé ou qu'on nous a proposé par ailleurs sera réellement mieux que ce qu'on quitte. Et c'est vrai que ça peut être une épreuve, ce questionnement aussi.
Ah, c'est-à-dire qu'ensuite, on peut vivre de réelles périodes d'échec, ça c'est aussi une réalité. Et dans ces périodes d'échec-là, c'est comment on peut avancer en vérité. C'est-à-dire, dans ces périodes d'échec-là, c'est quelles sont les décisions qui vont faire grandir. Parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer aussi. Il y en a qui ont fait des changements d'emploi, et ce qu'ils ont pris après a été beaucoup plus catastrophique que ce qu'ils avaient avant. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble qu'il faut voir. On ne peut pas s'arrêter que sur un aspect. C'est pour ça que je parle de discernement prudentiel. Il faut vraiment, c'est pas simplement un discernement, il faut avec prudence, c'est pourquoi je quitte, pourquoi je vais et à quoi je m'engage dans ces chemins-là.
Alors, nous arrivons quasiment au terme de notre émission. Est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier message pour les auditeurs de Radio Maria?
On leur souhaite une bonne fête de la Chandeleur, puisque c'est la présentation de Jésus au Temple et que nous sachions vivre ces moments de joie en Église. Voilà, essayer de vivre cette célébration qui est un petit peu unique dans le rituel romain, ce jour où on se balade avec des. On pèlerine avec les bougies pour aller au Temple, pour aller devant l'autel, et bien que cette lumière du Christ illumine notre vie intérieure et que nous puissions toujours témoigner de cette joie de l'Évangile.
Merci beaucoup, Père Grégoire Bellu, et au mois prochain.
Au mois prochain, bon courage à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Éthique familiale avec le Père Grégoire Bellu que nous retrouverons le mois prochain. Notre thème d'aujourd'hui était comment redécouvrir sa joie intérieure. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.